il est 13h à Yaoundé. Le journal est présenté par Marie-Françoise Ewolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Le sport à la une de l'actualité ce 19 novembre, jour de confrontation entre le Cameroun et le Zimbabwe. Dans une heure exactement, les deux pays vont s'affronter pour la 11e fois et pour l'ultime match des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Le Cameroun doit conserver et consolider sa place de leader dans ce groupe J et terminer la campagne en apothéose. Dans quelques instants, l'ambiance au stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé et les clés de la victoire pour Vincent Boubacar et ses coéquipiers. L'hôpital public aujourd'hui, le regard extérieur. La semaine mondiale de sensibilisation aux antimicrobiens remet au goût du jour l'aspect général de nos formations sanitaires. Quel accueil, quelle qualité des services, parole aux usagers et aussi au personnel de santé pour une autopsie sans complaisance sur l'hôpital public aujourd'hui. La conférence des hôpitaux qui se tient ce jour à Yaoundé abordera à coup sûr tous ces aspects liés au bien-être des malades. Les hommes ont aussi leur journée internationale et c'est ce jour. L'objectif étant l'amélioration des relations entre les deux sexes et la promotion de l'égalité. Les violences faites aux hommes par les femmes existent et partout dans le monde, elles sont aussi diverses qu'atroces. C'est le focus du 13h fait par un homme. Préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025, le Premier ministre chef du gouvernement appelle au respect des orientations contenues dans la circulaire présidentielle du 23 octobre 2024 à la prise en compte des exigences induites par les principes de rationalisation et de priorisation. Joseph John Gouté et l'équipe gouvernementale examinent depuis ce matin l'avant-projet de loi de finances pour l'exercice à venir pour une appropriation collective au sein du gouvernement. À cet effet, le conseil de cabinet de ce mardi a mis en scène le ministre des Finances pour la présentation de la configuration générale de l'avant-projet de l'avant-projet de loi. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire pour la présentation des principaux axes du budget d'investissement public pour le prochain exercice budgétaire. Yaoundé accueille la première conférence des chefs d'état-major des armées de la zone D du Golfe de Guinée. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et Sao Tomé et Principe prennent part aux travaux qui s'étendent sur 3 jours. Au centre des préoccupations, la lutte contre l'insécurité, surtout la piraterie maritime. La cérémonie d'ouverture est présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Joseph Béthia Somon plaide pour la mutualisation des actions face à l'évolution du mode opératoire des attaques. 14 jours après la survenue de la catastrophe de la falaise de Tchan, le gouverneur de la région de l'Ouest annonce la fin des fouilles sur le site. Les équipes des sapeurs-pompiers et d'autres secours ont épuisé leur capacité à rechercher les disparus le 18 novembre 2024. Le bilan fait état de 12 morts, 12 disparus et 2 blessés. Entre-temps, le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Nkwété, a effectué une descente sur le terrain pour exprimer sa compassion aux familles des victimes. Voici le reportage d'Emmanuel Koloku, CRTV Ouest.
Il aime si bien son travail que même la mort ne l'effraie pas. Mona Clifford est un miraculé dans le sens propre du terme. Le tractopelle au fond du ravin était conduit par lui. Pour revenir au premier jour, le jeune homme faisait partie de ceux qui déblayaient la route grâce à ses engins lourds.
Le premier éboulement est survenu aux environs de 9h30. Quand nous sommes arrivés, les machines de la commune travaillaient déjà. Nous avons creusé ensemble pour au moins 3 heures. Aux environs de 15 heures, j'ai vu comment la terre descendait vers moi. J'ai essayé d'esquiver avec mon engin, mais les mots de terre l'ont jeté au sol. Je me suis accroché au capot pour réussir à m'en sortir en courant comme je pouvais.
Mona Clifford, conducteur d'engins lourds, n'est pas qu'un travailleur, il est aussi un humaniste. Malgré le traumatisme, il est revenu sur le site de la catastrophe pour aider.
Tous les jours, nous essayons de creuser pour essayer de retirer les dépouilles enfouies. Je me vois face à cela et Dieu m'a aidé.
Beaucoup n'ont pas eu la chance de survivre comme Mona Clifford. Ce conducteur de la pelle excavatrice qui travaille de pied ferme avec les sapeurs-pompiers pour retrouver les dépouilles enfouies sous les décombres. Chang, Emmanuel Koloku, SIA TV.
Drame dans un lac au quartier Kombité à Ibolova. La petite Abondo, Léonie, âgée de 8 ans, meurt des suites de noyade. Le lieu est une carrière de sable remplie d'eau en cette saison pluvieuse. Le chef de ce quartier a demandé que toutes les activités soient arrêtées. Voici le récit de Flavienne Zobo, SIA TV Sud.
Selon les témoignages, la petite Léni, âgée de 8 ans, en classe au cours moyen première année à l'école publique catholique, informe ses parents de ce qu'elle doit se rendre très tôt à l'école pour des civilités de levée de couleur et une activité obligatoire les lundis. Célestin Ayinga, père de la disparue.
Elle voulait même aller à l'école très tôt. C'est quand elle vient me dire au revoir, comme d'habitude, que je regarde l'heure. Je lui demande que pourquoi tu vas à l'école à 6h50 alors que tu n'habites qu'à quelques mètres de l'école. Est-ce que c'est toi qui pars ouvrir l'école? C'est là où elle me dit que, comme il chante l'hymne le matin, il faut qu'elle arrive tôt.
La suite de cette histoire est une nouvelle dramatique. Le décès des suites de noyade de Lesni, ajoute son père.
Une heure après qu'elle soit rentrée, j'entendais comment elle jouait dans la cour. Une quarantaine de minutes après, j'entends des bruits. Léni est tombée dans le lac. Première idée qui a traversé mon esprit, c'était que, mais qu'est-ce qu'elle est allée chercher loin jusqu'à Ekoumbité?
Aussitôt, les sapeurs-pompiers sont alertés. Ils vont se mobiliser. Les riverains du quartier, par le concours du chef, vont également actionner la mobilisation. Chef et John Stéphane.
L'alerte est venue des populations qui disaient qu'il y a un enfant qui serait dans l'eau. Alors nous avons promptement réagi en mobilisant nos jeunes qui se sont introduits dans l'eau et qui ont pu trouver un enfant. Alors la nouvelle est arrivée qu'il y a un second enfant qui serait encore dans l'eau. Nous avons alerté les autorités administratives qui ont fait descendre les sapeurs-pompiers.
Le lieu du drame est une carrière de sable gorgée d'eau en cette saison pluvieuse. Flavien Zobo et Boulova CR TV.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 7 minutes à Yaoundé. Nous sommes rendus à un peu moins d'une heure du coup d'envoi du match Cameroun-Zimbabwe. Match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, théâtre de cette confrontation, vibre de plus belle alors que le staff technique des Lions vient de communiquer son 11 entrants avec de légers réajustements. Samuel Billon nous appelle du stade omnisport de Yaoundé. Bonjour Samuel.
Bonjour Marie-Françoise, bienvenue dans la clameur du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé qui donne le ton d'une ambiance, une grande ambiance ce soir sous un soleil de plomb. Les fans des Lions arrivent encore par colonne sous bonne vigilance de la sécurité alors que les protagonistes, les Lions indomptables du Cameroun et les Warriors du Zimbabwe sont attendus pour l'échauffement d'avant-match. Ils vont pas tarder à sortir du vestiaire. Marie-Françoise, vous l'avez dit, il y a justement réaménagement du 11 entrant camerounais avec une paire centrale expérimentale dans la défense. Christopher Wong est associé à Enzo Boyomo, le massif défenseur de Osasuna en Liga espagnole, 1m84, 23 ans, réputé pour son jeu correct. Ses relances impeccables, Enzo Boyomo est préféré à Jean-Charles Castelletto, puisque Michael Ngadugadui est sous le coup de deux cartons jaunes et donc logiquement suspendu pour ce match. Jackson Tchatchoua, latéral droit, Nuhu Tolo à gauche, Martin Onglai, Franz Amboangissa comme sentinelle du milieu de terrain devant la défense. Derrière, Georges Kevin Koudou, Franz Amboangissa et Franck Magri et Christian Bassogo. Le capitaine Vincent Aboubakar est à la pointe de l'attaque camerounaise. Marie-Françoise, visiblement, c'est un dispositif offensif, objectif pour les Lions, un jeu efficace et une victoire pour rester en tête du classement dans le groupe J et surtout terminer ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sans aucune défaite. Les Lions ont tous les mérites pour relever ce défi face à leur public cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Roger Kins et Samuel Billon en direct. À vous pour le 13h.
Merci Samuel. Les Lions indomptables veulent terminer leader du groupe J. Les techniciens dévoilent les clés de la victoire cet après-midi dans son reportage de Didier Marius et Tundi.
Conserver son invincibilité dans cette phase des éliminatoires de la CAN, c'est l'objectif principal du groupe de Marc Brice face aux Warriors zimbabwéens cet après-midi. Les Lions indomptables doivent être bien organisés et structurés. Alain-Georges Betty, consultant sportif.
Le staff technique à cette occasion devra réaffirmer sa bonne tenue en opérant des choix judicieux. Il serait opportun également de faire un savant dosage entre les titulaires déjà connus du public et ceux qui n'ont toujours pas justifié leur sélection au sein de la tanière des Lions indomptables.
Les quintuples champions d'Afrique doivent avoir une option offensive. Christian Balamokongo, consultant sportif.
Il y a de la possibilité de pouvoir mettre en place une organisation tout à fait différente, mais qui soit tout aussi efficace. Avec Marc Brice et ses 11 buts marqués jusqu'ici, pour seulement 3 encaissés, on va devoir s'attendre véritablement à une équipe assez généreuse sur le plan offensif, mais même il va falloir se montrer tout à fait opportuniste, lucide et surtout efficace devant les buts.
Cameroun contre Zimbabwe, rendez-vous dans la cuvette d'Infandena dès 14h.
Même s'ils sont déjà qualifiés et ont démontré leur capacité au fil des différentes journées de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Lions indomptables doivent tout donner pour convaincre les derniers sceptiques et sortir en beauté cet après-midi. Fritz Bayamak.
Les Lions indomptables arrivent au bout de ce parcours des éliminatoires avec une note largement supérieure à la moyenne. 5 matchs disputés, 3 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaites. Sur le plan comptable, Vincent Aboubakar et ses camarades totalisent 11 points et occupent le premier rang du groupe J. Une première place qui pourrait devenir définitive avec seulement un score de parité tout à l'heure au stade Omnisports Amadou Ahidjo. Car l'enjeu pour les Lions indomptables, après la qualification acquise depuis la 4e journée, est de boucler la phase éliminatoire de cette CAN en position de leader et de maintenir leur invincibilité dans cette phase. C'est donc un bouquet final, loin d'une rencontre de gala attendue cet après-midi. Le Zimbabwe, déjà qualifié comme le Cameroun, n'a pas encore perdu l'espoir de réussir un hold-up à Yaoundé et d'amener le pion aux Lions indomptables lors de cette ultime journée des éliminatoires. Voilà donc une finale de groupe que les supporters des Lions indomptables vont vivre à partir de 14h. Le dernier défi, et pas le moindre pour Marc Brice et ses garçons, est de réussir la sortie de ces éliminatoires par une prestation honorable. Le public attend une victoire des Lions indomptables avec la manière pour confondre les pourfendeurs de cette cuvée de l'équipe nationale et démontrer que le match terne à Orlando il y a 6 jours n'était qu'un faux pas.
Vous écoutez le 13h, premier forum sur les soins de santé primaire et l'institutionnalisation de la santé communautaire. Les travaux se poursuivent au Palais des Sports de Yaoundé, des assises qui permettent de passer en revue les différents maux qui minent le secteur, notamment l'accueil des patients dans les hôpitaux publics qui pose un réel problème dans l'humanisation des soins de santé au Cameroun. Regard croisé des usagers et du personnel soignant, c'est dans ce reportage de Marie-Claire Messier-Cobena.
L'accueil des malades dans les formations sanitaires marque une étape importante dans la prise en charge des patients et pourtant ce premier contact avec l'hôpital ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions, comme en témoignent de nombreux usagers.
C'est à déplorer. Vous dites même bonjour, personne ne vous répond. Personne ne vous regarde.
On ne va pas incriminer tout le monde, mais lorsqu'on arrive dans un hôpital, vu l'urgence, l'accueil pour moi n'est pas vraiment ça.
Vous arrivez à 8h, c'est à 15h qu'on va vous recevoir.
Des attitudes peu avenantes qui peuvent parfois entraîner des désagréments divers et avoir de lourdes conséquences pour les malades.
On va le faire, c'est pour se soigner. Mais si vous allez le matin et on vous reçoit à 15h, entre-temps, si quelque chose vous arrive.
Dans le cas d'une facture, une seule qui a eu un accident percuté par un véhicule, la première chose qu'on a demandé, c'est que est-ce que vous avez l'argent pour qu'on la prenne en soin.
Pour le professeur Mbou Robinson Eno, directeur de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, il s'agit d'une étape cruciale dans l'établissement d'une relation thérapeutique efficace.
Il n'y a aucun médecin qui peut dire « j'ai devant moi 40 malades, il voit 20 et s'en va ». Ça n'existe pas.
L'humanisation des soins de santé, un combat permanent mené par le ministre de la Santé publique, permet d'améliorer la qualité des soins, renforcer les relations de confiance entre le personnel soignant et les patients, toutes choses qui contribuent au bien-être global des malades.
Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance antimicrobienne, la mauvaise utilisation des antibiotiques en santé humaine, dans l'agriculture animale et dans l'environnement sont des facteurs majeurs qui rendent les infections beaucoup plus difficiles à traiter et augmentent le risque de complications et de mortalité. Comment lutter contre les résistances antimicrobiennes ? Esquisse de réponse dans ce reportage de Mimosette Tonnier.
La résistance aux antimicrobiens touche les personnes de tous les âges. L'on estime d'ailleurs le nombre de décès à 10 millions par an d'ici 2050. La lutte contre cette résistance nécessite une approche globale et multidisciplinaire. Dr Hatman Ravili, représentant de la FAO.
Pour le cas du Cameroun, c'est porté par le ministère de la Santé, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales, mais aussi le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Il y a plusieurs facettes sur lesquelles les États travaillent dans le Cameroun. Des aspects de formation, de réglementation, notamment dans la lutte contre les pharmacies de rue, les automédications, l'usage excessif des médicaments.
Le travail sur le terrain va consister à l'implémentation des différents plans d'action nationaux. Dr Ali Ahmed Yahaha, chef de l'unité résistance aux antimicrobiens, bureau régional OMS pour l'Afrique.
47 pays au niveau de la région africaine ont élaboré un plan d'action national. Suite à cet effort, nous allons continuer à appuyer les pays pour mettre en œuvre les activités prioritaires.
Promouvoir l'utilisation responsable des antibiotiques est essentiel pour lutter contre la résistance antimicrobienne.
L'organisation non gouvernementale panafricaine Synergies africaines contre le sida et les souffrances a reçu en fin de matinée ce jour à son siège à Yaoundé des équipements offerts par l'ambassade d'Israël à Yaoundé. Ces équipements sont composés d'un système solaire photovoltaïque, un système de gestion durable des déchets organiques ainsi que des kits de filtrage et de traitement d'eau. Ces équipements ont été rétrocédés à l'hôpital central de Yaoundé, ce dont constitue une des retombées du plaidoyer international de la présidente fondatrice de Synergies africaines, Madame Chantal Biya. On l'annonçait en début de journal, préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, appelle au respect des orientations contenues dans la circulaire présidentielle du 23 octobre 2024 à la prise en compte des exigences induites par les principes de rationalisation et de priorisation. Joseph Dion Goûté et l'équipe gouvernementale examinent depuis ce matin l'avant-projet de loi de finances pour l'exercice à venir pour une appropriation collective au sein du gouvernement. Faisons le point avec notre correspondante permanente à l'immeuble étoile, Laurentine Bocono.
Premier geste de compassion à l'entame des travaux. Une minute de silence en la mémoire des disparus de l'éboulement de terrain survenu le 5 novembre dernier dans la falaise de Tchan. Cela vaut prière en ce mois de novembre traditionnellement consacré à la commémoration des fidèles défunts. Les travaux de ce jour portent sur un exercice qui est devenu classique, a indiqué d'emblée le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Goûté. En cette période de l'année, il s'agit d'examiner l'avant-projet projet de loi de finances pour l'exercice à venir dans l'optique de sa consolidation avant sa soumission à la très haute appréciation du chef de l'État et son acheminement au Parlement. L'exercice en référence adresse deux types de questions, les questions financières et les questions économiques. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze, en a présenté les contours, à savoir le contexte d'élaboration, la politique budgétaire sous-jacente ainsi que les principales innovations qu'il comporte. L'on retient pour l'essentiel que l'inflation serait en baisse, comme dans la plupart des régions du monde, avec une projection de 3,1% en 2025 contre 2,2% en 2024 et 5,1% en 2023, que la croissance est projetée à 4,1% en 2025 contre 3,2% en 2024 et 3,2% en 2023, qu'en 2025, l'orientation de la politique budgétaire globale du gouvernement restera centrée sur la consolidation de la situation des finances publiques en cohérence avec le programme économique et financier conclu avec le FMI et la poursuite de la mise en œuvre des objectifs prioritaires. pionnière de la stratégie nationale de développement SND30. Pour sa part, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, a centré son exposé sur le contexte et les contraintes de la préparation du budget d'investissement public et les enjeux et défis liés à l'optimisation de l'investissement public en général. À l'évaluation générale, il apparaît que l'enveloppe proposée de l'ordre de 25,7% du budget total reste toutefois en retrait de la part du BIP dans le budget général projeté dans la SND30 à 40%. Elle se rapproche cependant de la cible de 30% proposée par le gouvernement lors du débat d'orientation budgétaire devant la représentation nationale. Rigueur et discipline budgétaire restent les maîtres mots en tout état de cause pour garantir la crédibilité et la soutenabilité du budget de l'État. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CIAR TV.
14 jours après la survenue de la catastrophe de la falaise de Tian, le gouverneur de la région de l'Ouest annonce la fin des fouilles sur le site. Les équipes des sapeurs-pompiers et d'autres secours ont épuisé leur capacité à rechercher les disparus le 18 novembre 2024. Le bilan fait état de 12 morts, 12 disparus et 2 blessés. Entre-temps, le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Nkwété, a effectué une descente sur le terrain pour exprimer sa compassion aux familles des victimes. Voici le reportage d'Emmanuel Koloku, CIAR TV Ouest.
Aux dernières heures des fouilles sur le site de la catastrophe de la falaise des Tian, l'équipe des sapeurs-pompiers est un peu isolée. Les volontaires ne sont plus présents, de même que les autres intervenants. Les derniers coups du tractopelle sont sans espoir et le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, annonce la fin des fouilles.
Les fouilles vont s'arrêter aujourd'hui. On a retiré cette décombre, 12 corps, 12 familles ont déclaré les leurs disparus. Il y a des personnes qui sont hospitalisées. On a récupéré 3 engins lourds ainsi que 3 voitures de petit gabarit et une moto.
Pour l'heure, les voies de contournement sont encore en étude.
Le ministère des Travaux publics a dépêché les équipes qui sont en train de travailler pour pouvoir identifier les routes de contournement peuvent passer. Mais en ce qui concerne une route ici, je crois qu'il faut des moyens costauds.
Le week-end dernier, quelques personnalités politiques sont descendues sur le terrain pour essuyer les larmes des familles endeuillées. Le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Nkwété, a apporté son soutien aux populations. Pendant ce temps, le recteur de l'Université de Tian et un groupe de scientifiques explorent d'autres pistes de solutions. Depuis la falaise de Tian, Emmanuel Koloku, CIAR TV.
Le projet de start-up 237 mis sur pied en 2023 par l'Agence universitaire de la francophonie accompagnée par le gouvernement camerounais tient son bilan à mi-parcours ce mardi à Yaoundé. La rencontre était aussi l'occasion d'attribuer un appui financier complémentaire à deux start-upers pour mieux maturer leur projet. Le ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat prenait part à cette cérémonie et assure l'accompagnement de son département ministériel à la jeunesse. Je vous propose d'écouter Achille Basilekine III au micro de Daniel Sopo.
C'est une activité qui, de notre point de vue, est la démonstration de notre engagement à soutenir l'essor de l'entrepreneuriat jeune dans notre pays. L'évaluation du projet Startup 237 intervient en plein dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat que nous avons lancé hier. Et justement, au lendemain de ce colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale que notre pays a organisé. L'idée, c'est que nous puissions en fait permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de tout ce que nous avons comme dispositif technique, mais aussi d'accéder à notre base de données de mentors pour leur permettre non seulement de transformer leur start-up en entreprise viable, mais au-delà que ces juniors entreprises par la suite puissent devenir de véritables acteurs dans le cadre de chaînes de valeur que nous essayons de mettre en place pour le plus grand bien de notre écosystème entrepreneurial.
Modernisation des villes camerounaises, une convention lie désormais le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain et l'École supérieure spéciale d'architecture du Cameroun. L'accord paraffé ce matin entre Célestine Kechia-Courtès et Jean-Jacques Cotto vise à accompagner les jeunes à accéder à cette formation. Je vous propose d'écouter le ministre Célestine Kechia-Courtès. Elle est au micro de Landrine Zanga.
Fort de ce que, pendant des années, le chef de l'État s'est engagé à travers les Yamon à soutenir les étudiants camerounais, nous avons dit dans la même vision du président de la République, pourquoi ne pas commencer aussi par le pays? Nous avons donc pris de faire cette convention avec les SACA pour, dans un premier temps, accompagner les jeunes des familles modestes à accéder à cette formation très importante pour la modernisation de nos villes, mais également à la formation ou le renforcement des capacités de nos architectes à l'heure où les CTD ont besoin d'architectes et d'urbanistes, mais également d'accompagner les recherches pour pouvoir les exploiter pour le développement de notre pays. C'est l'objet de la signature de cette importante convention que nous entendons mettre en œuvre dès 2025.
Faire le point sur les activités électorales, administratives et financières, c'est l'objet de la réunion de coordination qui se tient au siège d'Elections Cameroun en ce moment. Autour du directeur général des élections, les délégués régionaux et les chefs de services informatiques. Augustine Bassam.
C'est une réunion trimestrielle statutaire qui permet de fixer les objectifs, d'en évaluer les résultats, d'opérer les ajustements nécessaires et de mener des réflexions sur les échéances à venir. Les présentes assises vont s'étendre entre autres sur le déroulement de la révision des listes électorales de 2024, l'état du matériel électoral, la préparation de l'élection présidentielle de 2025. Dr. Eric Essousset, directeur général des élections.
C'est une réunion à la veille des échéances de l'année prochaine aussi pour évaluer les préparatifs et qui vont nous permettre d'être à niveau le moment venu, de voir ce que nous avons fait en 2024 et comment préparer 2025. D'abord, la révision des listes électorales qui va commencer bientôt, mais avant cela, la publication définitive de la liste électorale de cette année qui va être publiée le 30 décembre après avoir reçu les corrections et les réclamations lors de la révision qui s'est achevée le 31 août. Nous allons évaluer l'état de notre matériel, les kits, la production des cartes électorales qui va reprendre bientôt.
Les travaux qui s'étalent sur deux jours portent également sur les questions concernant la gestion des ressources humaines, l'état d'esprit du personnel, les dossiers disciplinaires et l'assurance maladie. Un accent sera par ailleurs mis sur le patrimoine matériel de cette institution, notamment en ce qui concerne la maintenance des infrastructures et la construction de nouvelles autres. De nombreux exposés sont au menu de la rencontre.
Le Cameroun, de concert avec d'autres pays à travers le monde, marque un arrêt aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme et du garçon. Cette année, l'événement est placé sur le thème « Insécurité dans nos communautés, comprendre et agir pour le bien-être de nos familles ». Occasion pour la rédaction de se pencher sur les violences faites aux hommes par les femmes, violences aussi diverses qu'atroces. Luc, bienvenue au Nana.
Femmes bourreaux et hommes victimes, hommes battus, menacés et humiliés par leurs compagnes. Des affaires dont on parle peu et déclare moins. Les hommes subissent en silence pourtant. Quels coups ne reçoivent-ils pas? Des coups de poing peut-être, mais aussi et surtout, des coups de gueule qui arrivent à temps et à contre-temps, à l'endroit et à l'envers, et qui finissent parfois à émasculer le chef de famille. Parce qu'il est homme, il doit savoir choisir une mort stoïque comme ce loup dont il est question dans les fables de Alfred de Vigny. L'homme s'interdit par conséquent de gémir ou de pleurer même quand son épouse refuse d'accueillir sa génitrice sous leur toit. Il n'ira nulle part pour déposer une plainte contre sa moitié pour coups et blessures. Jamais il ne s'est plaint de la trop présence de sa belle famille chez lui. Mais que de problèmes lui sont créés par sa compagne du fait de la présence d'un de ses frères ou de ses sœurs dans le domicile du couple. À ce chapelet de violence, l'on ne saurait oublier celle qui concerne le côté économique qui passe par cette phrase souvent utilisée par la femme. Mon argent, c'est pour ma famille et moi, et celui de l'homme donc. À chacun d'y répondre.
Suite ce mardi de notre série consacrée aux portraits des porteurs de projets innovants, récemment plébiscités lors de la finale de la Gritech Innovation Challenge. Aujourd'hui, gros plan sur des jeunes Camerounais qui ont eu l'idée de connecter les poulaillers au numérique. Le projet permet d'informer les éleveurs sur la demande de poulets sur le marché, les éventuels risques d'épidémie et de combattre les cas de vol de poulets. Ce projet a récemment raflé le 5e prix du concours de l'innovation technologique au service du secteur agro-pastoral. Gilles-Claude Mbongitundi.
Chaque œuf compté lors de la collecte quotidienne est enregistré dans la plateforme. Les quatre cofondateurs de cette start-up permettent de vite détecter si un œuf manque à l'appel. En fin de semaine, Mohamed Ali, est l'un des cofondateurs de la plateforme.
Notre application permet tout simplement de gérer les collectes quotidiennes, gérer la consommation alimentaire, gérer les achats, gérer les ventes et les relations clients.
L'éleveur renseigne sur sa page le nombre d'œufs et le nombre de commandes. Le non-respect des normes fixées dans l'interface déclenche des alertes.
L'application sera en mesure de vous envoyer des signaux, des alertes pour vous dire par exemple que la consommation alimentaire d'aujourd'hui n'est tout simplement pas normale. Et pour le gouvernement, ce sera un outil super puissant qui lui permettrait d'avoir avec exactitude les chiffres du secteur afin de pouvoir définir les politiques pour assurer la croissance et le développement de l'agropastoral.
Même le suivi des vaccinations des poulets peut également se faire à distance.
Nous travaillons par exemple là sur une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui fera en sorte que un producteur puisse connecter une caméra dans sa ferme et automatiquement la caméra pourra, avec une précision estimée à 80%, près de 90%, donner des informations claires sur le nombre de sujets vivants qu'il y a dans la ferme.
L'outil numérique fait la fierté des 4 ingénieurs en agronomie et en informatique. La phase test dévoile la multiplication par 4 des revenus annuels d'une ferme avicole.
La Laitier prépare activement les obsèques de Vincent Onana, ancien président de la FECAFOOT et homme politique décédé il y a quelques semaines. Une réunion d'information élargie sur les modalités de contribution et de participation est annoncée pour ce mercredi à partir de 16h à l'immeuble siège du conseil régional du centre à Yaoundé. La rencontre sera présidée par le ministre Henri Eyebe Aïssi en qualité de président exécutif du comité départemental de mobilisation des élites et forces vives de la Laitier qui sont du reste attendu à ce conclave qui se tiendra en présence d'une délégation de la famille du défunt. Le ministre des Finances porte à la connaissance des contribuables relevant du régime fiscal des organismes à but non lucratif qu'en application de l'acte uniforme de l'OADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif, la Direction générale des impôts en partenariat avec les ordres nationaux compétents en matière de comptabilité et de fiscalité a mis en place de nouveaux modèles de déclaration statistique et fiscale spécifiques aux OBNL. Ces nouveaux formulaires sont dès à présent accessibles sur la plateforme en ligne de l'administration fiscale à l'adresse suivante www.impots.cm. En vue de faciliter le respect des échéances fiscales, le ministre des Finances invite l'ensemble des OBNL à procéder à la soumission de leur déclaration fiscale pour l'exercice 2023 au plus tard le 31 décembre 2024 via la dite plateforme. De plus, le ministre informe le public l'administration fiscale poursuit activement les sessions de formation dédiées à l'utilisation de ces nouveaux modèles de DSF. Il encourage vivement les OBNL à se rapprocher de leur centre des impôts de rattachement pour toute demande d'assistance ou pour obtenir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Le ministre des Finances réaffirme son engagement à soutenir les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et compte sur le civisme de tous. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokosodjuki.
Good afternoon. Prime Minister, Head of Government Joseph Jiangute and members of Cabinet are currently meeting in Yaoundé within the framework of the Cabinet meeting for the month of November. The session is dedicated to the examination of the major outlines of the 2025 state budget as well as priorities for the investment budget. The German Agency for International Cooperation, GIZ, and the World Food Programme are harnessing efforts with lawmakers in Cameroon to ensure food security in the country. This was during an audience this morning granted to representatives of both organisations by the Right Honourable Kavayege Jibril, Speaker of the National Assembly. The Executive Secretary of African Synergy has expressed gratitude to the Israeli ambassador for supporting the First Lady's efforts to fight disease and poverty in Cameroon and beyond. Mr. Jean-Stéphane Biacha was speaking today at the headquarters of the Pan-African Organization, where he received top-notch equipment worth over 12 million CFA francs for the treatment of wastes and the provision of water and renewable energy from the Embassy of Israel. And health experts are raising awareness on the dangers of and preventive measures against antimicrobial resistance through a sensitization campaign ongoing in Yaoundé. The one-week event has brought together experts from international bodies like the World Health Organization and the World Organization for Animal Health, who warned that without urgent action, Even minor infections could become deadly. And in sports, the Indomitable Lions and the Warriors of Zimbabwe will, in less than 30 minutes at the Ahmadu Ahidjo Stadium in Yaounde, battle for the top position of Pool J of the 2025 AFCON qualifiers. The head coach of the Indomitable Lions, Mark Brees, has promised that his players will give their very best for victory this afternoon. And hundreds of fans of the Indomitable Lions have been making their way to the stadium. These and more at 3 p.m.
À retenir de cette édition qui s'achève, préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025, le Premier ministre chef du gouvernement appelle au respect des orientations contenues dans la circulaire présidentielle du 23 octobre 2024 à la prise en compte des exigences induites par les principes de rationalisation et de priorisation. Joseph John Goutet et l'équipe gouvernementale examinent depuis ce matin l'avant-projet de loi de finances pour l'exercice à venir pour une appropriation collective au sein du gouvernement. Jour de confrontation ce 19 novembre entre le Cameroun et le Zimbabwe. Dans 30 minutes exactement, les deux pays vont s'affronter pour la 11e fois. Le Cameroun doit conserver et consolider sa place de leader dans le groupe J et terminer en apothéose. C'est la fin de cette édition du 13h. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.